Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous parlons du droit à l'avortement. Où en est le débat dans votre pays? Alors qu'aux États-Unis, la Cour suprême, vous le savez, a supprimé le droit national à l'avortement. En Afrique, les interruptions volontaires de grossesse restent majoritairement interdites. Sur le continent, seuls 6 pays sur 54 autorisent l'avortement sans condition. La législation doit-elle évoluer? Vos réactions, évidemment, nous intéresse, vos témoignages également. On en parle ensemble ce matin dans 30 minutes. D'ici là, vous continuez à nous rejoindre au standard 33 9 693 693 70. Et comme tous les matins, je vous attends également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information. Eh bien, on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct, toujours au même numéro 33 9 693 693-693-70. Et on va commencer avec Médard. Il est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Médard.
Bonjour Juan Gomez, je suis à 10 minutes de Cotonou.
Ah, où êtes-vous alors?
Je suis à Cocotomé.
À Cocotomé. Eh bien écoutez, vous êtes à 10 minutes de Cotonou, mais vous êtes quand même à Cocotomé. Merci de nous écouter sur place. Médard, vous avez écouté RFI et vous avez des questions après le drame survenu à Melilla, dans l'enclave espagnole au nord du Maroc.
Absolument, Juan. Vendredi dernier, des dizaines de migrants sont morts à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Alors, Juan, comment expliquer le nombre si important de personnes décédées?
Oui, selon les autorités marocaines, au moins 23 migrants sont morts, tandis que 76 autres ont été blessés. Bonjour, Charlotte Auberti.
Bonjour Juan.
Journaliste à Info Migrants, site d'information destiné aux migrants, piloté notamment par France Média Monde. Charlotte Auberti, il s'agit là du drame le plus meurtrier jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Que s'est-il passé vendredi dernier? Comment expliquer ce bilan aussi lourd?
Oui, ce qui explique ce bilan catastrophique, c'est le fait que les affrontements ont été particulièrement violents vendredi. Selon des témoignages que nous avons obtenus à Infomigrants, les policiers ont essayé coûte que coûte d'empêcher les migrants de passer en tentant par exemple de les faire tomber des clôtures qu'ils étaient en train d'escalader. Nous avons pu parler avec Nader, un Soudanais de 30 ans qui fait partie de ceux qui ont réussi à traverser la frontière et à passer à Melilla ce jour-là. Il a donc été témoin des violences et il nous a expliqué, je cite, « La police faisait tomber les gens des grillages sans se soucier des blessures ou des fractures que les chutes causaient et après, il les frappait. » Il frappait un migrant jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, puis il passait à un autre. Nader nous a également expliqué que des policiers pourchassaient des migrants et les frappaient à la tête avec des grosses pierres.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des images vidéo qui montrent des hommes blessés, des migrants blessés, les mains attachées dans le dos.
Oui, il y a beaucoup d'images amateurs qui ont circulé. On peut voir sur ces images des amoncellements de corps de migrants, visiblement en souffrance et incapables de bouger. Sur certaines images qui sont très dures à regarder, les policiers leur donnent des coups de matraque alors qu'ils sont déjà à terre. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait un véritable acharnement de la part des forces de l'ordre envers les migrants ce jour-là. Et chose importante, selon Omar Nagy, qui est un militant de l'Association marocaine des droits de l'homme à qui nous avons pu parler, les secours ont mis beaucoup de temps à intervenir vendredi. Donc il était sur place, il l'a vu. Certains blessés graves seraient restés pendant de longues heures au sol avant que l'aide n'arrive, alors même que les secours postés côté espagnol aurait pu intervenir.
Comment expliquer ce déchaînement de violence?
Alors, selon les experts, tout cela est en grande partie lié aux relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Les deux pays ont signé en mars un accord de coopération en matière de sécurité. Parmi leurs priorités figure la lutte contre l'immigration illégale. Donc, en clair, selon cet accord, le Maroc doit enrayer les assauts des migrants à sa frontière avec Melilla, notamment, ce qu'il ne faisait pas complètement jusqu'à présent. Pour rappel, une brouille diplomatique entre les deux pays a torpillé les efforts en ce sens pendant près d'une année. Souvenez-vous, souvenez-vous, pour contrarier Madrid, le Maroc avait laissé passer 10 000 migrants à Ceuta en mai 2021. Mais donc, dorénavant, la donne a changé. Le Maroc a redoublé d'efforts. Il a intensifié la répression envers les migrants pour qu'il n'y ait plus de passages illégaux en Espagne. Et ça se ressent fortement sur le terrain. Les milliers de migrants qui survivent dans les forêts, proches de la forêt, de la frontière, pardon, avec Melilla, en attendant de réussir à traverser, sont régulièrement délogés et subissent constamment ce qu'ils qualifient d'attaque. Le but est bien sûr de les décourager à passer.
En tout cas, hier, la justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Enquête, précisons-le, exigée par l'ONU, mais aussi par l'Union africaine. Médard, vous avez une dernière question.
Absolument, Juan. Malgré le mur érigé entre ces deux pays, c'est-à-dire le Maroc et l'Espagne, et les difficultés pour le grimper, pourquoi les migrants tentent-ils toujours de passer par cette frontière?
Alors, vous parlez de mur, c'est un grillage, je parle sous le contrôle de Charlotte Auberti, c'est un grillage avec des fils barbelés à 6 mètres de hauteur, hein, c'est bien ça. Comment expliquer, malgré les conditions imposées par les autorités marocaines et espagnoles, qu'il y ait autant de migrants qui tentent toujours de passer cette frontière?
Oui. Eh bien oui, eh bien parce que c'est tout simplement l'une des seules voies gratuites qu'il reste pour les migrants venus d'Afrique pour passer en Europe sans avoir à prendre la mer. Donc Melilla représente avec Ceuta le seul territoire européen sur le continent africain, donc c'est une enclave comme vous le savez. Les tentatives d'entrée à Melilla ne nécessitent pas de passeurs, contrairement aux traversées de la Méditerranée ou de l'Atlantique pour aller vers les Canaries par exemple. Donc cette route migratoire gratuite attire de nombreux migrants pauvres, malgré les risques et les dangers.
Médard, a-t-on répondu à vos questions?
Parfaitement bien, mais ça fait froid au dos.
En tout cas, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Cotonou, en tout cas à 10 km de Cotonou. Continuez à nous être fidèles. Merci infiniment. Charlotte Auberti, journaliste à Info Migrants. 10h17 à Paris. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Historienne, professeure à l'Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis. On s'est permis de vous contacter ce matin car nous avons des questions après cette décision historique de la Cour suprême américaine de mettre fin au droit à l'avortement au niveau fédéral. Alex, soyez le bienvenu. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes à Bangui, en Centrafrique. Nous vous écoutons.
Oui, justement, Richard, bonjour, Centrafrique. La Cour suprême a décidé de révoquer la loi qui donnait aux femmes américaines une protection constitutionnelle en ce qui concerne le droit à l'avortement. J'aimerais savoir, avec cette décision de la Cour suprême, peut-on craindre le retrait d'autres droits?
Ah, peut-on craindre le retrait d'autres droits? C'est une bonne question, Françoise Coste. Quand on regarde la composition de cette Cour suprême, 9 juges, 6 d'entre eux sont conservateurs, 3 d'ailleurs ont été nommés par Donald Trump au cours de son mandat. D'autres droits sont-ils désormais menacés aux États-Unis?
Sans doute que oui. C'est la question centrale, parce que pendant 50 ans, on a cru que le précédent de l'avortement était ancré dans la culture américaine et qu'il était protégé. Et en fait, on a bien vu que ce n'est pas vrai, que la Cour suprême puisse finalement défaire ce qu'elle-même a fait. D'autant plus que un des 9 juges dont vous parliez, Clarence Thomas, le juge, le doyen de la Cour, qui a été nommé dans les années 90 par le premier président Bush, lui, il a dans son texte, il a soutenu la décision de vendredi dernier, et il a ajouté un petit texte à la décision officielle pour dire que d'après lui, le raisonnement utilisé pour abolir le droit à l'avortement pouvait être élargi à d'autres anciennes décisions de la Cour suprême, et il cite explicitement les décisions ayant permis, par exemple en 1965, de légaliser la pilule contraceptive, et la décision de 2015 ayant légalisé le mariage homosexuel. Donc, il a ouvert la porte à ces éventualités, donc de perte d'autres droits concernant en particulier donc les femmes et les minorités sexuelles.
Ouais, il faut préciser, Françoise Coste, pour ceux qui ne connaissent pas la société américaine ni la législation américaine, c'est qu'aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui a souvent le dernier mot sur les grands sujets de société qui divisent le pays.
Oui, comme son nom l'indique, elle est suprême, c'est-à-dire qu'elle a le droit de vérifier, c'est sa fonction suprême, quand une loi est votée, que ce soit par le gouvernement fédéral, par le Congrès à Washington ou dans les États fédérés, donc quand une loi locale ou nationale est votée, elle a le droit de vérifier sa compatibilité avec la Constitution. Et si elle dit « Ah non, cette loi n'est pas constitutionnelle, elle ne correspond pas aux principes ou aux valeurs défendues par la Constitution », elle l'abroge, cette loi, et comme elle est suprême, cette Cour, c'est le tribunal ultime, on ne peut pas faire appel. Comme vous l'avez dit, elle a le dernier mot. Donc là, sur la question de l'avortement, clairement, ben, c'est la fin de l'histoire, tout est bloqué, on ne peut pas essayer de lui faire changer d'avis.
Françoise Coste, on vous garde encore une petite minute. Alex a une dernière question à vous poser.
Oui, justement, M. Van. Joe Biden parle d'une erreur tragique. Quel moyen le président des États-Unis a à sa disposition pour protéger le droit à l'avortement ?
Et quelle est la marge de manœuvre, désormais, du président américain ?
Quasiment aucune. Quasiment aucune, parce qu'effectivement, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la Cour suprême. Et les 9 juges de la Cour suprême sont complètement indépendants parce qu'ils sont nommés à vie. Donc là, ils sont 9. Tant qu'aucun juge ne démissionne ou ne décède, ce que je ne souhaite à personne, hein, mais tant qu'aucun juge ne démissionne ou ne décède parmi les 6 qui ont voté pour interdire l'avortement, c'est le statu quo. Donc, il peut faire tous les discours qu'il veut. Joe Biden, les démocrates peuvent tirer la sonnette d'alarme. C'est un peu trop tard.
Mais il appelle justement son électorat à se mobiliser pour les élections de mi-mandat dans 5 mois. Est-ce que ça peut inciter les démocrates à aller voter? Et surtout, quelles seront les répercussions, quand bien même ils aient la majorité aux prochaines élections?
Ouais. C'est une bonne question aussi. Alors, effectivement, clairement, les démocrates vont axer leur campagne sur cette question-là, par rapport aux élections de mi-mandat de novembre, les élections législatives, en promettant que si les électeurs, en particulier les électrices, votent pour le Parti démocrate, il y aura des grosses majorités au Congrès pour le Parti démocrate et que ces majorités démocrates vont remplacer l'arrêt de la Cour suprême par une loi qui protégerait l'avortement, le droit à l'avortement au niveau national. Le problème, c'est que, comme on le disait il y a 2 minutes, même si, c'est un énorme si, une telle loi a été votée par le Congrès, la Cour suprême pourrait très bien, dans la foulée, l'annuler. Oui. Et retour à la case départ.
Merci infiniment, Françoise Coste, d'avoir pris quelques minutes ce matin. Historienne, professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis. Alex, bonne journée. La ligne téléphone n'était pas bonne avec Bangui, mais il pleut à verse en ce moment sur la capitale centrafricaine, d'où voilà, ce réseau téléphone assez mauvais, pour dire clairement les choses. Merci en tout cas de votre fidélité, Alex. Bonne journée. On va parler de la République démocratique du Congo et surtout de l'avenir politique de Vital Kamerhe. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan Gomez.
À Kinshasa, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci beaucoup. Alors, Vital Kamerhe a été acquitté et se tourne maintenant vers l'élection présidentielle de 2023. Alors, j'aimerais savoir quel pourrait être son avenir politique au sein de la coalition au pouvoir.
Ouais, c'est vrai qu'il est désormais libre, il a finalement été acquitté en appel. Un acquittement qui intervient effectivement, ça n'a échappé à personne, à 1 an de la présidentielle. Bonjour Trésor Kibangula.
Bonjour.
Analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Il ne fait aucun doute que Vital Kamerhe revient dans l'arène politique ?
Oui, je pense qu'il faut d'abord rapidement rappeler l'état des relations justement entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. En fait, malgré la condamnation de Kamerhe pour détournement de fonds dans les procès retentissants des 100 jours en 2020, il n'y a pas eu divorce pour autant entre les deux hommes, alliés dès la première heure de Tshisekedi par l'accord de Nairobi, un mois avant la présidentielle de 2018. Alors qu'il vient d'être condamné, Kamerhe avait d'ailleurs donné des consignes assez claires à ses militants pour ne pas faire des vagues, ne pas s'attaquer au président de la République. Et un mot d'ordre avait été donné à ses ministres de ne pas démissionner du gouvernement. Et après, tout le monde aussi a entendu le président Tshisekedi parler de son ex-directeur de cabinet, des termes plutôt sympathiques, quelqu'un de correct, de sérieux. Je suis convaincu, disait le chef de l'État il y a 1 an, que Vital Kamerhe jouera encore un rôle dans ces pays. Et justement, quel sera donc ce rôle? Je pense que cette question était d'ailleurs l'un des sujets de la rencontre d'hier.
Hier. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité cette nuit, le président Félix Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe.
Oui, effectivement, il faut signaler que c'est seulement 4 jours après l'acquittement de Vital Kamerhe. Rien n'a filtré de ces échanges, mais tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir, en dehors de son autorité morale, Tshisekedi lui-même, manque de chef depuis l'éjection de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et on le sait, Vital Kamerhe était le premier à assurer Félix Tshisekedi, à peine proclamé président de la République en 2018, qu'il sera possible de faire basculer la majorité parlementaire en sa faveur, majorité parlementaire acquise à l'époque par l'ex-président Joseph Kabila. Aujourd'hui, donc, Kabéré pourrait bien être, dans un premier temps, en tout cas, ce coordonnateur qui manque à l'Union sacrée de la nation, cette coalition très hétéroclite autour de Félix Tshisekedi, fin stratège, Kabéré a les profils pour le job.
Oui, certains le disent, enfin le surnomment même le faiseur de roi, il a le profil pour le job, Trésor Kibangula. On le dit, mais c'est ce qui se dit, et c'est votre avis de politologue qui m'intéresse, à la primature.
Oui, il était annoncé à la primature, mais on sait aussi que le président de la République lui-même dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour faire avancer sa vision politique. Il était dans de combines ou les deals avec Joseph Kabila qui a explosé il y a deux ans, il y a en 2020, fin 2020. Donc aujourd'hui, il reste peu de temps et les enjeux maintenant, c'est la présidentielle de 2018. Comment est-ce qu'il peut utiliser mieux Vital Kamerhe pour les échéances à venir? Et voilà, ça se discute encore entre soit prendre ses postes de primature, c'est une hypothèse de travail, mais aussi et surtout être celui qui va remettre un peu de l'ordre dans l'Union sacrée de la nation.
Oui, en tout cas, vous disiez que rien n'a filtré de la rencontre cette nuit entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est exact. Il y a quand même des photos officielles qui sont publiées dans la presse et on voit clairement les deux hommes se serrer la main, se faire des accolades et selon la présidence, l'ambiance a été cordiale. Tim, vous avez une dernière question sur ce sujet qui, si j'en crois les réactions standards et sur nos réseaux sociaux, passionne en ce moment les Congolais, puisque évidemment on parle de politique politicienne à 15 mois à peine de l'élection présidentielle.
Oui, évidemment, Juan. Selon les accords de Nairobi de 2018, Félix Tshisekedi devait être soutenu pour les élections présidentielles par Vital Kamerhe. Avant que ce dernier ne soit soutenu par l'actuel président en 2023. Alors, qu'en est-il de cet accord de Nairobi?
Ah, bonne question, Trésor Kibongula. Vous évoquiez l'accord de Nairobi hein, il y a quelques instants. Les deux hommes, en 2018, s'étaient entendus sur une sorte de partage du pouvoir. En 2018, Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi. Et en contrepartie, théoriquement, en 2023, Tshisekedi s'était engagé à soutenir Vital Kamerhe.
Oui, ça c'était il y a...
Il y a 5 ans.
Il y a longtemps.
Il y a 4 ans.
5 ans, effectivement. Ouais, il y a 4 ans. Donc la donne politique a terriblement évolué depuis cet accord. Les alliances d'hier ont pour la plupart été rompues, même les alliances de la préélection. Les nouvelles alliances sont en train de se constituer. On a vu hein, l'ex-président Joseph Kabila s'est réconcilié avec Moïse Katumbi, qui pourrait cette fois-ci être candidat à la présidentielle. Martin Fayulu cherche des nouveaux alliés dans ce qu'on appelle bloc patriotique. Les anciens premiers ministres Matata Ponyo et Adolphe Nzito se positionnent aussi et consultent chacun de son côté. Donc, même si personne ne l'a dit, l'accord de Nairobi de 2018 n'a pas survécu hein, à ces dynamiques politiques. Vital Kamerhe le sait lui-même. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a déjà annoncé plus d'une fois qu'il sera bel et bien candidat à sa propre succession. Oui. Aujourd'hui, Kamerhe a donc le choix, soit de s'aligner de nouveau, comme en 2018, derrière Tshisekedi, comme pourrait le faire Jean-Pierre Bemba, soit de prendre ses distances. Aujourd'hui, c'est plutôt la première option qui me semble la plus plausible. Kamerhe et Tshisekedi tenteront ensemble sûrement de reconstituer un ticket pour faire face oui. Aux différents fronts des oppositions qui se préparent face au président actuel et face au régime actuel. Et surtout, aussi, il est tribun et Kamerhe pourra aussi contribuer à faire davantage entendre la voix du régime qui fait face aussi à la résurgence du M23, soutenu vraisemblablement par Kigali. Là aussi, Kamerhe connaît des acteurs clés des dynamiques sécuritaires dans l'Est du pays, parce qu'il est de Bukavu.
Tout à fait.
Et dans cette partie-là, on attend une force régionale des États de l'Afrique de l'Est qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique.
Ouais, c'est vrai que Vital Kamerhe dispose d'une base électorale dans le Kivu. Merci infiniment, Trésor Kibangula. Tim, a-t-on répondu à vos questions?
Bien répondu, merci à Trésor, merci à RFI.
Et bonne journée à vous et on aura évidemment largement l'occasion de revenir sur le rôle que pourrait jouer dans les prochains mois Vital Kamerhe dans la perspective de l'élection présidentielle en RDC. Je m'excuse auprès de Moussa qui est en Guinée, qui avait des questions sur le dialogue politique qui s'est ouvert en Guinée. Moussa, c'est promis, on vous appelle demain matin et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions. RFI, il est déjà 8h30 en temps universel.